Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Allô Internet, pour ma cinquième vidéo, aujourd'hui on va entrer dans un gros sujet, et ça fait quand même longtemps que je vais en parler. On en a parlé un petit peu dans la série Mindhunters sur Netflix, que je vous recommande beaucoup. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la série on parle de plusieurs meurtres d'enfants noirs qui ont lieu à Atlanta, en Géorgie. Et bien tout ça, évidemment, c'est inspiré de faits réels, et ces meurtres en question ont eu lieu en Géorgie. Et bien sûr, tous ces meurtres étaient l'œuvre d'un tueur en série. On a eu des doutes sur une personne durant l'enquête, mais le vrai tueur n'a jamais été formellement arrêté. On a des doutes sur la personne, mais encore là, on n'est pas sûr. Donc aujourd'hui, on va tout étudier ça, puis c'est vraiment intéressant. Là, moi, c'est l'une de mes nouvelles histoires préférées. Podcast Over and Out. Pour commencer, je vais parler de la ville d'Atlanta dans les années 80. C'est assez impressionnant à quel point elle a grossi, elle a été en pleine expansion au moment où les meurtres ont eu lieu. Et ça a vraiment changé du tout au tout. En fait, l'aéroport d'Atlanta a été agrandi. Et le maire de la ville à cette époque avait vraiment de gros projets pour cet aéroport. Il voulait vraiment que la ville soit comme boostée économiquement par cet aéroport. Et en effet, il a réussi parce que l'aéroport d'Atlanta aujourd'hui, c'est l'aéroport où il y a plus de trafic dans le monde. En 1977, quand les rénovations dans l'aéroport ont commencé, on savait très bien que la ville en entier allait être complètement transformée. Aussi, il faut savoir qu'en 1973, donc 4 ans avant les rénovations de l'aéroport, on venait juste d'élire notre premier maire noir à Atlanta, donc Maynard Jackson, ce qui a vraiment fait progresser les tensions raciales au sein de la ville d'Atlanta. C'était une époque très très progressiste pour les Noirs, puis il y avait des Blancs racistes qui aimaient pas ça, donc il y avait vraiment des grosses tensions là à cette époque, surtout dans les années 80. Alors tout a commencé le 21 juillet 1979, quand le jeune Edward Hope Smith, de 14 ans, a été vu pour la dernière fois en train de quitter l'anneau de glace du centre-ville. Il était accompagné de sa petite amie. Après ça, il a disparu. Pas plus que 4 jours plus tard, le jeune Alfred Evans, de 13 ans, a lui aussi disparu, alors qu'il était vu pour la dernière fois en train d'attendre l'autobus. Donc il a disparu le 25 juillet 1979. Deux garçons du même âge qui disparaissent en 4 jours d'intervalle, c'est assez inquiétant. Mais là, c'est encore plus inquiétant quand, le 28 juillet, on retrouve les deux garçons morts dans un boisé de la ville. Edward avait été tué par balle, donc il avait une balle logée dans le haut de son dos, et le petit Alfred a été tué par strangulation. Et le plus étrange, c'est que quand on l'a retrouvé, il était tout habillé, mais il portait une ceinture qui ne lui appartenait pas. Moins de 2 mois plus tard, le jeune Milton Harvey, de 14 ans, disparaît aussi alors qu'il est en train de faire des courses pour sa mère. Il était sur son petit vélo jaune quand il a disparu et son vélo a été retrouvé 2 jours plus tard dans une partie éloignée de la ville. Son corps a été retrouvé 2 mois plus tard et il était rendu comme un squelette. C'est vraiment étrange parce que ses chaussettes avaient été retirées, donc ça on sait pas vraiment pourquoi, et les raisons de sa mort sont indéterminées. Maintenant rendu le 21 octobre, un autre garçon disparaît. Cette fois-ci il est plus jeune, il a 9 ans. Et contrairement aux autres fois, on a maintenant un témoignage. Le petit garçon disparu, Youssouf Bell, a été aperçu en train de monter à bord d'une voiture bleue.
If there's somebody out there like that that has him, I just wish they knew that somebody here loves him, that a whole lot of people love him, that this whole community loves him and they want him back too.
Le 8 novembre, le petit Youssouf a été retrouvé mort dans le sous-sol d'une école primaire et c'est le concierge qui l'a retrouvé. Il était en short et sur ses shorts, il y avait un petit bout de masking tape, donc c'est quand même un indice important. Il avait été frappé 2 fois à la tête, mais ce qui l'a tué, c'est vraiment... Il s'est fait tuer par strangulation. Ça fait beaucoup de disparitions, mais là, j'essaie quand même de vous dire les plus importantes. Le 4 mars 1980, pour la première fois, il y a une petite fille qui disparaît, Angel Lanier, de 12 ans. Elle a été retrouvée morte 6 jours plus tard. C'est vraiment bizarre parce qu'elle avait comme une paire de sous-vêtements dans le fond de sa gorge, des sous-vêtements blancs, qui ne lui appartenaient pas. Et elle a été retrouvée aussi les mains attachées avec des câbles électriques. Elle aussi avait été étranglée. En tout, entre 1971 et 1981, 23 personnes ont été tuées à Atlanta. C'était majoritairement des enfants et des adolescents. Et il y avait seulement 6 adultes de 20, 21, 23, 27, 28 et 32 ans.
Of the police was that we were overreacting and that there was no serial killer. Nobody cared. So you could have several killings go on, and if the people were poor, then no one discovered there was a serial killing. If you were black and poor, then really nobody looked, especially if you're black and poor and southern.
Puis le plus bizarre, c'est qu'à chaque fois, les rares fois où on avait des témoins pour assister à l'enlèvement, parce qu'on parle d'enlèvement, là, on parle toujours d'une Cadillac bleue, donc c'était la voiture qu'on cherchait, qu'on a vue à plusieurs reprises. C'est une époque très très sombre pour Atlanta. T'sais, imaginez la ville où vous vivez, moi par exemple, Québec. C'est comme si pendant 10 ans, à chaque 2-3 mois, il y a un enfant qui disparaît. Et on le retrouve toujours mort quelques jours plus tard. On sait pas c'est qui l'a assassiné. Et c'était vraiment très, très stressant pour la communauté qui laissait plus vraiment leurs enfants sortir seuls de peur qu'ils se fassent assassiner. Aussi, il faut savoir que la majorité des victimes étaient afro-américaines, donc de peau noire. Il y avait tous entre 7 et 18 ans et provenaient majoritairement de quartiers défavorisés. Donc c'était vraiment comme eux, les victimes, le cible si on veut. Donc ça devait être tellement, tellement stressant pour les parents. Dans la série Mindhunters, pour ceux qui l'ont vu, on présente vraiment le personnage de Holden comme le sauveur dans cette affaire de meurtre. Mais ça c'est vrai parce qu'à cette époque-là, avec la construction de l'aéroport et Atlanta qui veulent montrer qu'ils sont en pleine expansion, ben, les meurtres étaient pas vraiment médiatisés, tu sais, ça paraît mal, une trentaine d'enfants qui disparaissent, on les retrouve morts, mais c'était pas vraiment dans les médias, donc c'est vrai qu'on avait besoin comme du FBI pour venir résoudre l'affaire, parce que c'est comme si la police de la ville s'en foutait un petit peu. Ils essayaient comme de tout cacher ces meurtres-là pour pas trop qu'on en parle. Mais là, on parle d'une trentaine d'enfants, là, c'est grave, mais il y a comme rien qui avançait dans l'enquête. Donc au départ, on pensait que les meurtres étaient l'œuvre du KKK, donc du Ku Klux Klan, qui était encore très actif en Géorgie à cette époque. Puis ça fitrait le profil, là. C'est des enfants noirs qui se font tuer majoritairement. Ok, ouais, ça peut être une bonne théorie. Mais quand John Douglas, qui est interprété par Holden dans la série Mindhunters, quand lui est arrivé, sur place, il y avait une autre théorie. Pendant plusieurs mois, le FBI était sur place pour aider la police locale à coincer le tueur en série, parce que là, on pensait qu'on avait affaire à un tueur en série plutôt que le KKK. Chaque scène de crime a été analysée de fond en comble afin qu'on puisse établir un profil du potentiel meurtrier. Grâce au profil qu'on a pu faire du meurtrier, on a déterminé qu'il était probablement noir pour 2 raisons. Premièrement, à cette époque, dans les quartiers défavorisés d'Atlanta, si un homme blanc se pointait à plusieurs reprises dans le même quartier, ben on le remarquerait assez vite, là, parce que c'était comme rare que des hommes blancs allaient à Atlanta. Donc ça, on c'était quand même un bon indice que c'était probablement pas un blanc qui faisait ça.
We were probably dealing with a black male, someone that can move comfortably through that environment without attracting attention. And a white male certainly would have attracted a great amount of attention.
Mais aussi, selon Douglas, un tueur en série, ça tue rarement en dehors de sa couleur de peau. Par exemple, les noirs vont tuer les noirs, les blancs vont tuer des blancs. Donc, c'est vraiment ce que croyait Douglas à cette époque. Dans les années 80, c'était peut-être vrai, mais honnêtement, aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Juste genre en disant ça, j'ai pensé à Albert Fish, là, que lui tuait juste des enfants noirs. Donc, c'est pas tellement vrai. Mais à cette époque, ils pensaient ça. Donc le FBI était pas mal sûr que c'était un homme noir qui faisait tous ces meurtres, mais la police locale, la police d'Atlanta, eux, ils étaient encore dans leur théorie que c'était probablement l'œuvre du KKK. Donc là, on avait comme le FBI et la police d'Atlanta, puis ça clashait un petit peu parce qu'il n'y avait vraiment pas la même vision des choses. Comme on avait retrouvé plusieurs corps dans la rivière Chattahoochee, on savait que le tueur se débarrassait des corps dans cette rivière. C'est en mai 1981 que les enquêteurs se sont mis à observer secrètement le pont de cette rivière en attente que le tueur aille se débarrasser d'un autre corps. Parce que comme je vous dis, ça faisait plusieurs corps de suite qu'on retrouvait dans la...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
La rivière. Un moment, pendant l'une des nombreuses soirées à observer le pont, un moment, on a entendu comme un gros splash, comme si quelque chose d'assez lourd avait été jeté dans la rivière à partir du pont. C'est assez étrange d'entendre ce bruit à 2h du matin. Fait que là, ils ont entendu ça, et là, il y a comme une voiture qui est sortie du pont. Fait que tout de suite, les policiers, genre, se sont mis à sa poursuite et ont arrêté l'homme qui conduisait. Le conducteur était un homme noir de 23 ans nommé Wayne Williams. Et tout ça, là, ce que je vous dis, c'est vraiment dans Mindhunters, on le voit parfaitement, là, fait que c'est vraiment intéressant. Wayne Williams, c'était un producteur de musique pop et il voulait vraiment comme partir un nouveau groupe un peu dans le style de Jackson 5. Cette nuit-là, quand il a été arrêté par la police, il a été interrogé et il dit que il était comme à l'extérieur à 2h du matin parce que le lendemain matin, il avait un rendez-vous très tôt avec un futur chanteur nommé Gerald Johnson. Et c'est pour ça, là, comme il allait vérifier l'adresse avant son rendez-vous du matin. Mais tu sais, qui fait ça à 2h du matin si tu dois te lever? Tu sais, au pire, pars avant, là, ça a comme pas vraiment de logique. Là. Donc il a dit oui, j'ai rendez-vous avec un certain Cheryl Johnson, voici le numéro de téléphone, voici l'adresse. Les policiers ont vérifié et il y avait personne au nom de Cheryl Johnson, mais aussi il y avait personne à ce numéro-là. Donc ça part mal. Et comme de fait, 2 jours plus tard, on a retrouvé le corps nu de Nathaniel Carter de 27 ans dans la rivière et il était porté disparu depuis 3 jours. Dès qu'on a fait la découverte du corps, on a arrêté Wayne Williams pour une interrogation formelle. Il a passé le polygraphe qu'il a échoué à 3 reprises. Et plusieurs indices pointaient vers Wayne Williams comme de quoi qu'il pourrait être coupable. Par exemple, il y a plusieurs de ses collègues qui disaient que Wayne Williams avait comme plusieurs graphines, là, des égratignures dans le visage, justement à l'époque où il y avait plusieurs meurtres, et ça concorderait vraiment avec genre une victime qui se fait étrangler, qui essaie de se débattre. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y avait des égratignures dans le visage. Et aussi, sur le corps de l'une des victimes, Jimmy Ray Payne, de 21 ans, on a retrouvé des poils de chien et des fibres d'un tissu, genre tapis vert, assez étrange. Et en effet, Wayne Williams avait ce tapis en question chez lui, une sorte de tapis vert. Et aussi, il y avait un chien. Donc là, ça regarde pas bien pour cet homme. C'est le 21 juin 1981 que Wayne Williams a été arrêté pour les meurtres de Jimmy Payne et Nathaniel Carter, donc les deux seuls meurtres qu'on a pu associer à lui. Le procès a commencé le 6 janvier et a duré 2 mois. Et durant le procès, on a pu accumuler plusieurs autres preuves pointant contre Wayne Williams. Par exemple, il y a plusieurs autres fibres de tissu qui ont été retrouvées sur les corps des victimes. Et ces fibres concordaient parfaitement avec sa housse de lit, ses oreillers, sa salle de bain, ses gants, ses vêtements, ses tapis et son chien. Donc, tu sais, on a comme pu relever des indices menant Wayne Williams à chacune des victimes. Malgré toutes ces preuves, on a seulement pu l'accuser et l'arrêter pour les meurtres de Carter et Payne. Et il a quand même été condamné à la prison à vie, mais on n'a jamais pu l'accuser formellement des autres meurtres. Mais Wayne Williams, depuis le jour 1, il dit qu'il est innocent pour tous les meurtres et il continue à clamer son innocence. Et dans cette histoire-là, il y a comme une grosse théorie du complot vraiment intéressante. C'est qu'en fait, avant l'arrivée du FBI, c'est qu'eux sont arrivés avec un profil du tueur, ben la police d'Atlanta avait pas mal de preuves contre le KKK. Il était genre à ça des arrêtés. Apparemment, le Ku Klux Klan tuer ses enfants dans le but de commencer une guerre raciale. Là, je dis raciale, je sais que c'est pas ça, mais c'est genre la traduction littérale de race war, là, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Une guerre raciale. Comme je vous ai dit, les Noirs d'Atlanta commençaient à s'affirmer davantage. Il y avait un maire noir qui venait d'être élu, donc le Ku Klux Klan n'était pas en accord du tout avec ça. Fait qu'ils ont même dit à la police qu'elle allait tuer un enfant noir par mois. Même qu'un homme de 30 ans nommé Charles Sander, un membre du Ku Klux Klan, qui aurait dit à propos d'un garçon, « Je vais tuer ce bâtard noir, je vais l'étrangler avec mon pénis. » Donc ça, on sait qu'il a dit ça. Il y a plusieurs témoins qui l'ont entendu dire ça. Mais il a dit ça comme sous le coup de la colère quand un petit garçon de 14 ans nommé Luby Greter a comme reculé sa voiture de go-kart dans l'auto de Sanders, de l'homme de 30 ans. Fait qu'il s'est fait comme frapper son auto, il s'est fâché puis il a dit « je vais le tuer, ce petit bâtard-là ». Mais tu sais, c'était sous le coup de la colère, mais ça veut pas dire que c'est un meurtrier. Mais ce qui est étrange dans tout ça, c'est que, comme de fait, quelques semaines plus tard, le petit Luby Greter a été retrouvé mort, étranglé. Peu de temps après ça, le frère de Sanders a accepté de porter un micro caché et il a enregistré son frère à son insu en train de dire qu'il cherchait un autre petit garçon à tuer. Donc c'est vraiment intéressant, mais il y a une femme qui dit avoir vu le petit Luby Greter en train d'entrer dans la voiture de Wayne Williams. Mais il y a un autre témoin qui dit non, moi je l'ai vu entrer dans la voiture d'un homme blanc très grand avec une cicatrice dans le cou. Fait que là, on a deux témoins qui disent des choses différentes, qui dit vrai. Un autre truc étrange s'est produit le 2 mars 1981, quand le jeune Joseph Bell de 15 ans a quitté son lieu de travail, qui est un restaurant de fruits de mer. C'est bizarre parce que un peu avant de disparaître, Joseph Bell avait dit à un de ses amis que ça faisait quelques semaines qu'il se sentait suivi. L'ami de Joseph a ensuite vu un homme blanc et un homme noir stationnés dans une voiture au coin de la rue et il aurait comme dit à Joseph d'embarquer dans leur voiture, mais le petit Joseph se serait enfui en courant. Le soir même, aux nouvelles de 17h30, on annonçait que Joseph Bell avait disparu. La soirée d'après, Jerry, le gérant du restaurant, a reçu un appel au resto. C'était Joseph qui appelait en panique. Il a dit « C'est Jojo, ils sont sur le point de me tuer. Je suis presque mort, ils vont me tuer. Jerry, ils vont me tuer. » Et l'appel a coupé. 9 jours plus tard, le meilleur ami de Joseph Bell, Timmy Hill, a aussi disparu. Puis c'est vraiment bizarre parce qu'en plus de ça, une semaine avant sa disparition, le jeune Timmy Hill s'est fait violer par un homme, un gardien de sécurité qui travaillait à l'armée du salut. C'est tellement bizarre parce qu'il y a tellement de suspects dans cette histoire-là, puis c'est quoi le sens, là? Qu'est-ce qui se passe? La soirée après la disparition du petit Timmy, le gérant du resto où Joseph travaillait a reçu un autre appel. Cette fois-ci, c'était une femme qui était au bout du fil. Il dit que c'était une femme dans la trentaine qui sonnait blanche. Là, c'est comme si ben, elle avait une voix de femme blanche. Je sais pas comment ils peuvent reconnaître ça, mais c'est ce que l'homme a dit. Et elle a dit que son mari était très dangereux mais qu'elle essaierait quand même de libérer Joseph, qui n'est pas encore mort. Et elle a demandé au gérant de ne pas appeler la police parce que sinon, ça serait elle qui se ferait tuer. Malheureusement, le 30 mars, le petit Timmy a été retrouvé mort, étranglé, dans la rivière Chattahoochee. Et 3 semaines après, Joseph Bell a aussi été retrouvé mort, étranglé. Et ce qui est bizarre, c'est qu'après la mort de ces deux garçons, qui a été comme quand même marquante, l'enquête a vraiment changé de manière radicale. Les rapports d'autopsie étaient rendus erronés, il y a des preuves importantes qui se perdaient, et les scènes de crime étaient visiblement manipulées. Et 3 semaines après, c'est là que Wayne Williams s'est fait arrêter. Donc pourquoi on a arrêté Wayne Williams? On l'a blâmé pour tous ses meurtres, mais on n'a jamais pu le condamner pour ses meurtres. Sûrement qu'on a essayé de mettre tous ses meurtres sur le dos d'une seule personne sans défense, mais en fait, je pense que ça cache quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Parce qu'en fait, pensez-y, si la ville d'Atlanta découvrait que tous ses meurtres étaient causés par le Ku Klux Klan et qu'une guerre raciale allait commencer, en pleine construction de l'aéroport, c'était vraiment de la mauvaise publicité, ça allait comme détruire tous les futurs projets. Donc c'était bien plus facile de prendre un jeune homme de 23 ans, sans histoire, et de le blâmer pour tous ces meurtres en question. Et c'est vraiment facile de manipuler des scènes de crime, de cacher des preuves pour justement accuser une personne. Parce qu'au final, on n'a pas tellement de preuves contre lui. Tu sais, oui, les fibres, mais c'est à peu près tout. Mais d'un autre côté, quand Wayne Williams a été arrêté, les meurtres ont cessé. Donc, je sais tellement pas là, quoi penser de cette histoire-là. Donc là, aujourd'hui, en 2019, l'enquête a été rouverte. Il y a des centaines de boîtes là, d'informations. C'est quand même difficile de rouvrir l'enquête après autant d'années, mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir trouver un coupable. Ça, c'est fou qu'en ce moment, on en parle full justement à cause de Mindhunters. Mais là, justement, aujourd'hui, en 2019, on rouvre l'enquête. C'est une enquête vieille de 30 ans, là. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je sais pas, parce que le gouvernement a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Dans les années 80, je pense que oui, le gouvernement était prêt à faire des affaires sketchy comme ça, donc accuser une personne de 30 meurtres d'enfants. Puis, comme je vous dis, depuis le début, il clame son innocence. Donc, qui dit vrai? Je sais pas, je suis vraiment partagée. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, on se revoit demain pour ma 6e vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.